Bonjour à tous. Donc effectivement, on va faire le lien entre la partie pharmaceutique et une partie plus large, hein, qui est la prise en charge médicamenteuse, et le lien sur la simulation. Donc la partie pourquoi finalement la simulation est intéressante dans ce processus, et surtout les modalités avec une vision plutôt institutionnelle. Et l'objectif ensuite, c'est d'ouvrir à la discussion. Mais finalement, si on regarde, vous rappelez que antérieurement, on parlait de circuit de médicaments. Donc on avait un raisonnement produit qui a glissé depuis 5-10 ans, prise en charge médicamenteuse du patient. Donc on est bien maintenant avec une vision patient derrière. Ce n'est pas uniquement un changement de vocabulaire, c'est aussi un changement d'esprit et de méthode derrière. Le processus, finalement, on se dit dans un premier temps, si on survole, c'est simple, 4 étapes, 4 acteurs, chacun son domaine de compétences. Partie médicale avec la prescription, le lien avec la dispensation pharmacien-préparateur, donc on parle d'équipe pharmaceutique, parce que là aussi il y a des évolutions de métier, pharmacien vers la pharmacie clinique, au plus près des services de soins, les préparateurs aussi qui montent en compétences, la partie administration à côté paramédical, et l'étape de suivi qui, elle, est déjà un peu plus pluriprofessionnelle. Si on creuse finalement, c'est pas du tout si simple que ça. Vous retrouvez les différentes étapes, donc ça c'est tiré donc, de la HAS, avec les différentes étapes, les sous-étapes, la vision du patient qui est au centre, mais là aussi ça bouge. Hein, donc là, c'est, je crois que ça date de 2012. Maintenant, on raisonne plutôt comme patient-acteur, patient-partenaire, donc c'est pas le patient au centre, c'est le patient au même niveau finalement que les autres acteurs, que sont les professionnels de santé. Donc, finalement, dans un établissement de santé, prescription médicale, d'accord, mais finalement, on va se être confronté à une grande diversité. On va avoir la partie junior, la partie senior, à partir de quand on appelle senior, avec lorsqu'on a des spécialités à risque, comme les chimios par exemple, les spécialistes qui viennent, qui vont donner des informations complémentaires. Il va y avoir toute la notion de service de chir, hein, chirurgie en but, avec qui prescrit, chirurgien, anesthésiste. La problématique donc, des astreintes, des prescriptions orales, des logiciels qui ne communiquent pas entre eux, les médecins traitants ensuite, le traitement personnel, hein, les réductions de durée de séjour, comment je vais récupérer finalement l'information, d'où finalement cette montée en puissance de ce qu'on appelle la conciliation médicamenteuse, hein, comment finalement connaître au maximum le traitement et le traitement de sortie. Donc hier, on était en réunion avec la HAS, qui résonne aussi en termes de certification, finalement. Comment monter d'un cran, vous savez que chaque fois qu'il y a des manuels de certification, ils relèvent, ce qui est normal, un peu le niveau d'exigence. Ils sont en train de réfléchir, justement, sur la connaissance du traitement, entrée-sortie du patient. La dispensation, finalement, au niveau de la pharmacie, suivant les services, vous allez avoir des traitements nominatifs, vous allez avoir des dotations. Vous allez avoir des établissements qui sont déjà automatisés, plus ou moins. Vous allez avoir donc, la notion également d'urgence, la notion de permanence. Est-ce qu'il y a des gardes, pas de gardes, des astreintes? Est-ce qu'on laisse la pharmacie ouverte ou non? Tout ce qui est préparation. On a parlé donc, avec Marie de la partie chimiothérapie, là, tout ce qui est nutrition parentérale, les prématurés, préparation magistrale également. Donc chaque fois, il y a des facteurs de risque supplémentaires. Et aussi cette diversité finalement, à part si vous êtes un établissement privé, un peu mono-thématique, ou que du SSR, mais les établissements ont généralement justement tout ce panaché finalement de services. Finalement, les infirmières, ça va être exactement pareil, on va traiter du PEROS, on pense tout de suite bien sûr à la partie injectable, programmation, règles de calcul, et on sait qu'il y a toujours des difficultés, ou en tout cas des risques, par rapport à cette étape. Le matériel qui évolue aussi de plus en plus, donc... important ou en tout cas novateur. On approche maintenant, même si c'est plutôt de la ville, avec la partie objet connecté, pompe et ainsi de suite. Donc il y a aussi cette notion de matériel qui monte en puissance. Finalement, on a parlé tout à l'heure avec Marc-Christine Moll qui a cité donc, le groupe Sofracim, SHAS sur la partie simulation et gestion des risques. On est tout à fait là dans le processus. Hein. C'est pour ça comme elle a présenté également que c'est une des thématiques du DPC, la prise en charge médicamenteuse. Parce qu'on a bien des situations dangereuses qu'on va identifier, qui vont être à la base finalement de notre réflexion des scénarios de simulation, et on peut ensuite aller jusqu'à simuler, on l'a vu, jusqu'au RMM, finalement jusqu'au bout de l'événement, qui ne va pas toujours jusqu'au décès, heureusement. Finalement, tout à l'heure, j'avais introduit en disant circuit de médicaments patient. Et en fait, les travaux actuels en termes de prise en charge médicamenteuse, c'est de cumuler finalement plusieurs dimensions. Donc notamment trois, médicaments. Donc vous avez tous travaillé, je pense, dans vos établissements sur les médicaments à risque. Oui, mais tous les médicaments à risque, donc maintenant c'est du haut risque. Est-ce que l'étiquetage, ben, ça suffit? Ben, si c'est pour mettre des pastilles, s'il n'y a pas une action derrière, une compréhension, une appropriation, pourquoi finalement c'est un médicament à risque? Et qu'est-ce que ça signifie pour moi, médecin, moi, infirmière, moi, pharmacien, moi, aide-soignante, par exemple? Finalement, quand je vois ce petit logo, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on a cette notion donc, de médicament. On a la notion de patient à risque, patient de réa, personne âgée, enfant, et ainsi de suite. Donc, on sait qu'on a des populations à risque. On le voit bien lorsqu'on va travailler avec cette vision un peu de gestion des risques, la partie organisation, organisation à risque. Et là, c'est un peu plus difficile à évaluer de manière factuelle. Et on est en train de travailler avec l'ANAP, justement, donc l'Agence nationale de performance, pour essayer d'identifier ce type d'organisation à risque pour mettre un peu des priorités sur ce type de service. Alors, processus à risque, ben oui. Pour l'instant, donc Enis 3 va être lancé l'année prochaine. En tout cas, il est en train d'être construit cette année. Enis 2, et un d'ailleurs, a bien montré que les produits de santé, dont les médicaments, sont fournisseurs, entre guillemets, d'événements indésirables graves. Tout autant que les infections nosocomiales. Les infections nosocomiales, on a toutes les équipes, équipes mobiles, d'hygiène, ainsi de suite. Donc on a des ressources, on a une organisation, finalement, prise en charge médicamenteuse. Suivant les établissements, on n'a pas du tout ce type d'organisation. Et si on retrouve, donc là c'est mélangé, mais il n'y a pas de différence entre les risques liés aux produits de santé par rapport aux autres risques, ben on va retrouver finalement, certes, la défaillance humaine, mais tout ce qu'on appelle bien sûr les facteurs humains et organisationnels que vous connaissez également. Ben, si on fait la synthèse, c'est un processus qui est transversal, qui va toucher tous les services. Rares sont les patients, même en ambulatoire, qui ne vont pas être concernés par la prise en charge médicamenteuse. Quand on dit médicamenteuse, c'est produits santé, hein, médicaments et dispositifs médicaux. Vous avez vu que c'est multi-étape. Qui dit multi-étape dit interface. Qui dit interface dit risque, perte d'information. Multi-acteur, des variations intra-établissement, suivant les services. On ne va pas raisonner en RIA, au bloc ou en nécessaire de la même manière. Fréquence et gravité erreur médicamenteuse, qu'on retrouve de manière importante. Et à la fois, si on fait l'analyse des causes, on retrouve les causes techniques et non techniques. Donc il n'y a pas de souci, on est vraiment dans le domaine d'excellence de la simulation. Alors maintenant, comment le mettre en place finalement au niveau d'un établissement? Alors le périmètre, vous connaissez, donc c'est une vieille maxime qui a été remise en chose. Ben, finalement, les 5B, ou alors, si on transforme les 5M, donc les mauvais, les erreurs, erreurs de patient, erreurs de médicament, de dose ou de voie, de moment, ça peut être une approche plutôt produit, donc c'est peut-être pas la plus pertinente au final. Si on regarde les étapes, ben finalement on va aller avoir, la simulation peut être intéressante sur l'ensemble, c'est-à-dire l'annonce du diagnostic, le traitement, la partie médicale, tout ce qui est validation, préparation, partie administration, éducation thérapeutique, on en a parlé aussi un peu tôt ce matin, et bien sûr tout ce qui est événement indésirable grave, analyse des causes, RMM et ainsi de suite. Donc vous voyez que l'ensemble finalement du process, prise en charge médicamenteuse, est tout à fait adapté à la simulation. En termes de périmètre, ben, on va toucher le technique, le non technique, de manière classique. Donc là, il n'y a pas de différence par rapport aux autres périmètres que touche la simulation en santé, avec un gain et une plus-value, bien sûr, sur tout ce qui est facteur humain et organisationnel. Ben, si on regarde le premier, si on commence plutôt une analyse processus, donc le début, ça va être la prescription. Ben, diagnostic, prescription, validation pharmaceutique. L'objectif, c'est peut-être pas de les traiter en silo, mais de les traiter donc, de manière continue. Et une autre approche de simulation qui commence à arriver, on en a parlé brièvement sur l'analyse pharmaceutique, ça va être la pertinence. Finalement, par rapport à mon diagnostic, comment je vais entraîner de formation initiale et formation continue les médecins à bien prescrire, à prescrire la bonne thérapeutique, et en lien étroit avec la validation pharmaceutique, que ce soit pour la ville ou pour l'hôpital. Pour aussi favoriser les échanges, et pour pas que la validation pharmaceutique soit perçue comme un contrôle, mais plutôt comme une aide, hein, une co-finalement réflexion. Et là, on le voit avec l'extension de la conciliation médicamenteuse, où finalement, le pharmacien, voire éventuellement le préparateur, va apporter finalement des informations pour que la première prescription médicale hospitalière soit la plus pertinente possible. Le risque en termes d'administration, donc là je vous ai repris un extrait d'un guide de GOS, on ne va pas les balayer, mais vous voyez qu'il y a énormément de littérature sur tout l'ensemble des risques liés à l'administration. Le principe de la prise en charge médicamenteuse, c'est d'essayer que toujours il y a à minima un double contrôle. J'ai un souci de prescription, j'ai quand même l'étape de validation pharmaceutique et l'infirmière qui est derrière, qui vont pouvoir arrêter, servir de barrière. Côté pharmacie, erreur de pharmacie, ça va être l'infirmière qui va encore pouvoir arrêter. Étape d'administration, il va voir les propres erreurs d'administration, plus les erreurs en amont qui n'ont pas pu être arrêtées. Donc c'est pour ça que c'est une étape particulièrement à risque. Vous connaissez tous la partie inscription des tâches, et chaque fois qu'on les mesure, ça concerne de facto également la prise en charge médicamenteuse. Donc là, je vous ai repris un peu l'ensemble des définitions. Et l'idée aussi de l'assimilation, alors là, c'est un peu petit, je m'en excuse. Donc là, vous avez finalement toutes les différentes sources d'interruption des tâches. Ça peut être physique, la discussion, le téléphone, les sonnettes, les bruits ambiants et ainsi de suite. Les barrières possibles, et aucune barrière, vous le savez, n'est efficace à 100%. Mais aussi la simulation va permettre de tester. Ensuite, j'observe dans mon service les interruptions des tâches, les origines, et avant de mettre en place des barrières qui vont être peut-être un peu lourdes au niveau structurel, je vais tester pour regarder si effectivement ça diminue ou ça n'impacte. Donc là aussi, la simulation peut être tout à fait intéressante. Les outils, on a la grosse boîte qui va finalement être utile sur l'ensemble de la prise en charge médicamenteuse. Alors, l'objectif, c'est de faire finalement un continuum entre la partie théorique sous forme d'e-learning, pour justement permettre un accès quand même assez libre. Et après, en termes de compétences techniques et non techniques, on a tout le panel finalement que vous connaissez bien de la simulation. On en a parlé déjà au niveau pharmacie, mais ça peut être étendu à l'ensemble de la prise en charge médicamenteuse, tout ce qui est jeu de rôle, le patient. Des approches un peu nouvelles, comme le théâtre forum, on a une toute petite expérience, mais ça a l'air assez intéressant. Ça serait possible aussi d'échanger avec vous si l'utilisez, comment vous l'utilisez. L'escape room, on en a parlé, donc plusieurs également établissements l'ont mis en place. Nous, on en avait fait un l'année dernière également, donc il a un intérêt. Et après, tout ce qui est procédural, de manière assez classique, mais qui peut être tout à fait intéressant, y compris, bien sûr, la partie 360, qui émerge maintenant aussi comme une bonne alternative. Alors, regardez pas trop les dessins, c'était pas trop l'esprit, c'est plutôt l'approche. Donc, on a plusieurs possibilités donc de fonctionner, ou en tout cas de réfléchir. Là, si vous avez la prise en charge médicamenteuse, de la prescription à l'administration à la sortie du patient, tenez pas compte des différents dessins, on va pouvoir travailler à l'échelle d'un établissement, par exemple, que sur l'administration. Je veux sécuriser l'administration des injectables sur l'ensemble des services. Donc là, on va travailler plutôt direction des soins, notamment coordination des soins, aussi un peu avec le côté médical, mais ça va être surtout le côté infirmier. Ça peut être une des approches. L'intérêt, c'est qu'on va travailler avec une seule profession, une seule organisation, donc en termes de faisabilité, est assez favorable. Par contre, sécuriser un maillon d'une chaîne, ce n'est pas super efficace au total. L'autre possibilité, c'est de travailler sur l'ensemble du process, prise en charge médicamenteuse. Par exemple, prise en charge médicamenteuse du patient âgé ou d'un patient chirurgical, une chirurgie ou l'ensemble des chirurgies, peu importe. Donc du coup, ça va vous permettre finalement de fiabiliser l'ensemble du parcours. Donc l'autre intérêt, c'est que vous le savez maintenant, on raisonne toujours par approche parcours. Parcours traceur du patient traceur donc, existe déjà dans la certification actuelle. Ça va être renforcé dans la certification qui va sortir, la 2020. Donc l'intérêt aussi, c'est de montrer que finalement, on sécurise l'ensemble d'une chaîne sur un parcours. Et là, on est tout à fait en plus dans les clous et des priorités HAS, et aussi important. Une vision plutôt institutionnelle, c'est le retour d'expérience, donc soit au niveau d'un pôle et si possible au niveau de votre établissement, pour que justement il y ait un gain en termes de mutualisation, d'approche, d'une part pour que les méthodes qui sont déployées au niveau des services soient le plus homogènes possible, parce qu'ensuite on va pouvoir utiliser en tout cas des compétences, des scénarios, le retour d'expérience est super important également dans le cas de la prise en charge médicamenteuse. On a cité tout à l'heure les différents niveaux finalement de difficultés. Donc au début essentiellement donc, pour ne pas mettre en défaut donc, la partie technique. Une fois qu'on maîtrise la partie technique, on va incrémenter un peu avec le travail en équipe et ensuite se focaliser, une fois qu'on a maîtrisé les deux niveaux, on va se focaliser sur le travail en équipe. Et en termes de prise en charge médicamenteuse, vous l'avez compris, l'intérêt, c'est que, par définition, plus on va travailler sur la notion de travail en équipe, plus l'intérêt, ça va être de travailler également et d'intégrer cette approche multidisciplinaire au sens large, parce qu'en fait, suivant les activités, ça va être aussi le préparateur, et pas que le médecin, le pharmacien, l'infirmière, ça peut être aussi l'aide-soignant, et ainsi de suite. Chacun a des rôles propres qu'on peut valoriser, en tout cas qui interviennent dans la prise en charge médicamenteuse. À quel niveau ? Les situations régulières, finalement, c'est, je dirais, de routine, entre guillemets. Finalement, vu les contraintes de ressources humaines, absence, congés, problèmes, et ainsi de suite, on est rarement, finalement, en situation régulière. On est de plus souvent en situation donc, irrégulière. Chaque fois, il y a toujours un petit gap. Et du coup, il faut s'adapter. Et ensuite, l'intérêt aussi de l'assimilation, vous le savez, c'est les cas exceptionnels. Pour l'instant, on n'a pas ce retour d'expérience, car heureusement, ça ne survient quasiment jamais. C'est les situations sans précédent. Les acteurs, le mot-clé, c'est interprofessionnel. Vous avez bien vu, avec les premières diapositives, prise en charge médicamenteuse du patient, il y a vraiment un gain de travailler donc, tous ensemble par rapport à ça. Métier. Et on a besoin, bien sûr, des experts en simulation pour la méthode. Quand je dis experts simulation, ça intègre aussi des experts pédagogiques sur cette notion, finalement, d'apprentissage qui est important de planifier. L'autre intérêt, ça peut être les GHT. Alors, les GHT sont hyper variables en France. Je ne sais pas comment vous positionnez-vous actuellement dans vos différents GHT, si c'est mutualisé, si c'est une opportunité ou pas. Mais en termes de ressources, que ce soit les centres de simulation, le matériel, la méthode, c'est intéressant de pouvoir travailler soit interprofessionnel, style le projet pharmaceutique du territoire, mais aussi en termes de prise en charge. Au niveau des GHT, ça a tout à fait sa place, d'autant que la partie gestion des risques et qualité fait partie, bien sûr, des missions transversales des GHT. Alors, ce n'est pas exactement le même album photo qu'on a vu ce matin, mais l'esprit est un peu le même. Et Marie vous l'a dit, on a très peu finalement de contraintes spécifiques. Donc on arrive à glaner quelques dispositifs et médicaments de part et d'autre. Donc on peut le faire avec des centres de simulation ou de la partie in situ, par exemple. Alors, juste pour exemple, ce n'est pas du tout la vérité, c'est juste pour vous montrer un peu le chantier qu'on peut mettre en place sur Nice. Donc je pense qu'il a largement aussi d'autres expertises et aussi plus développé que la nôtre, mais c'était juste pour vous montrer finalement comment on va essayer de mettre ça en musique. Donc l'objectif, c'est de travailler avec des services volontaires, au lieu d'essaimer finalement sur l'ensemble d'établissements, donc de se focaliser par pôle et par service, donc bien sûr volontaire, avec une première étape de formation, un peu les rappels fondamentaux, et là aussi on a toujours des besoins, des attentes qui sont un peu différentes, entre les plutôt anciens, celles qui sortent des écoles, et ainsi de suite. Donc là, c'est de remettre un peu au niveau. Donc là, on va utiliser, par exemple, le SOS Game 360 qu'a fait la DIF, ce qui nous permet donc de faire assez rapidement, finalement, des formations, et aussi commencer par un côté un peu ludique, en tout cas innovant. Ensuite, des échanges style Vie ma vie. L'objectif, c'est de mieux se connaître. Donc on fait descendre les services au niveau de la pharmacie, et inversement, donc, les pharmaciens et préparateurs qui s'occupent du service vont être un peu intégrés pendant un certain temps donc, au niveau du service pour avoir cette vision aussi des difficultés et des contraintes. Et ensuite, donc, on couple avec l'observation sur notamment l'organisation et l'interruption des tâches. L'objectif, c'est de se dire, certes, ça va être un plan d'action institutionnel, donc les grandes lignes, vous les connaissez tous, c'est la réglementation, les bonnes pratiques, ainsi de suite. Mais le détail doit être personnalisé terrain et pas justement être uniquement un plan d'action vertical. La phase 2, c'est formaliser les bonnes pratiques, et notamment en termes de communication via le théâtre-forum. Donc théâtre-forum, c'est des mini-scénettes où finalement on reprend une situation qui a posé souci et chacun va intervenir de manière différente. Moi, je l'aurais fait comme ci, comme ça, et ainsi de suite. Donc ça peut être utile où là où justement il n'y a pas vraiment de consensus ou de vraies règles. L'objectif, c'est que justement que chacun puisse amener et à la fin, on se dit, nos bonnes pratiques à nous, les voilà, et ça va nous servir ensuite pour comme base de simulation. Base de simulation, de manière classique, les jeux de rôle, l'escape room qui a montré quand même un intérêt par rapport aux chambres des erreurs classiques, et bien sûr, on garde le volet débriefing indispensable. Alors, juste pour finir, les perspectives. Donc, au niveau de la CPC, l'objectif, c'est de faire un guide. Alors, on avait déjà fait un guide gestion des risques qu'on avait dupliqué du guide HAS. Donc là, l'objectif est strictement identique. Là aussi, Puri Partenaire, hein, parce que ce sera avec l'IQS, la SFAR et la SOFRA-SIMS, y compris des représentants de patients. L'objectif, c'est courant 2018, plutôt fin 2018, donc sortir. Donc, vous avez le guide HAS sur les bonnes pratiques simulation, le guide HAS gestion des risques qui va sortir, qui est générique. Et là, l'objectif, c'est de le décliner de manière très pratico-pratique sur la prise en charge médicamenteuse. Donc, l'objectif, c'est de le cibler, que ce soit bien sûr Pluripro. Hein, c'est pas, même si c'est CFPC qui va essayer de coordonner, l'objectif, c'est que ce ne soit pas justement uniquement pharmaceutique, très pragmatique, éviter les redondances, parce que justement, on a chacun nos référentiels et autres. L'objectif, c'est de synthétiser et de rebondir sur les référentiels donc existants et évolutifs dans le temps, puisqu'en fait, l'objectif, c'est un continuum. Et l'autre exemple pratico-pratique, c'est on avait revu avec la SFAR donc, et la CFPC donc, en fin 2016 les recommandations, prévention des recommandations erreurs médicamenteuses au niveau du bloc. Ça, c'est le référentiel. L'objectif, c'est de transformer donc, en partie learning, d'établir les scénarios de simulation. On va utiliser aussi la partie. L'objectif, c'est que fin 2018, de faire un bloc 360 degrés. Et l'objectif, c'est de récupérer les stats, finalement, qu'on va récupérer avec le jeu 360 pour alimenter les scénarios de simulation plus classiques, mais aussi changer ou adapter, en tout cas, notre future version du référentiel en disant, ça, c'est un risque plus ou moins maîtrisé, ça, au contraire, c'est des nouveaux risques, on était passé à côté, et ainsi de suite. Donc, vous voyez bien que le lien, finalement, dynamique entre ces différents outils sur un cycle de 2-3 ans, entre les référentiels, les jeux, la partie simulation, mais surtout ce retour d'expérience qui est nécessaire d'organiser, mais ça nécessite des bases de données, du multicentrique, ainsi de suite. C'est pour ça que ça prend toujours un peu de temps. Donc voilà, un grand merci à l'ensemble de l'équipe ici, côté Club des 4, mais on va être très rapidement, très largement, ce ne sera pas le CAC 40, mais l'esprit. Voilà. Un grand merci.